on connaît la chanson.
1, 2, 3, 4.
Chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez. Et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Voyou. Voyou, on l'a beaucoup entendu, vous le connaissez évidemment, il est médiatisé largement. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité commencer notre entretien en évoquant plutôt la part musicien, la part de ce compositeur, de cet instrumentiste. Et peut-être est-ce que ça en déroutera certains et certaines d'entre vous, mais on retrouvera aussi le voyou qu'on aime, celui qui fait des chansons réconfortantes et qui en parlera au cours de cet entretien. Allez, je vous laisse découvrir cette rencontre avec Voyou.
Alors, je suis avec Voyou, Thibaut. Allez, je ne vais pas le dire, Thibaut, ouais. On a dit, on s'arrête là. Donc bonjour Thibaut qui passe à l'escale.
Bonjour.
L'escale, t'es un terrain connu, j'imagine, c'est de ta vie nantaise, c'est un endroit que tu as déjà fréquenté.
Alors c'est un endroit dans lequel j'ai déjà joué même, je crois.
Même, d'accord.
Ouais, j'arrive plus à me rappeler avec quel groupe j'étais venu ici, mais en tant que musicien, j'étais déjà venu jouer dans cette salle. Ouais.
D'accord, Pégase, Run for Pauline ou...
Ou Elephants, plusieurs... ouais, c'était un des trois entre Elephants, ouais. Je me demande si, je pense que c'était avec Elephants.
Voilà, donc voilà, on a déjà situé pour les auditeuristes de l'émission trois groupes pop nantais auxquels tu as participé en tant que bassiste.
En tant que principalement bassiste, ça m'arrivait aussi de toucher d'autres instruments, mais j'étais engagé en qualité de bassiste. Ouais.
Alors dire tout de suite que tu touches d'autres instruments, ça c'est quelque chose de très important, puisque en définitive tu touches énormément d'instruments. De quoi ne joues-tu pas, ou alors de quoi joues-tu? Enfin, je sais pas. C'est...
Alors il y a plein d'instruments que je joue pas, mais ce que je joue, disons que j'ai commencé par la trompette. Très vite j'ai appris le piano, la batterie, la basse, la guitare et un peu les fondamentaux pour faire du rock et de la pop, des choses comme ça. Et un peu plus tard j'ai appris aussi le trombone, la clarinette et la flûte traversière, et puis au milieu de tout ça pas mal de percussions aussi différentes.
C'est déjà pas mal. Donc
ouais,
il y a la
cool.
Famille des percussions, la famille des vents, les bois, les ouais. Cuivres, les cordes. Il manque quoi en fait? Tu joues pas de harpe?
Non, en fait, ce qui me manque vraiment, et c'est, je pense que ça va être la prochaine étape, c'est violoncelle, violon, donc les cordes frottées.
Ah oui.
Ouais, et ça, c'est un apprentissage. En fait, les vents, c'est assez simple pour moi d'apprendre des instruments à vent. Mais les cordes frottées, c'est tout un autre apprentissage. Et je pense que ça me prendrait des années de réussir à jouer vraiment ces instruments.
Alors j'ai passé 2 ans à travailler le violon,
ouais,
parce que je jouais de la mandoline. Je me suis dit, bon, je joue de la mandoline, c'est le même accord, c'est la même ouais. Échelle, ça ne doit pas être difficile. Ben, si.
Ah, c'est extrêmement dur, ouais. C'est des instruments très... qui demandent beaucoup de précision et beaucoup de rigueur et de travail, c'est très compliqué. Hein.
Tout à fait, c'est peut-être pas indispensable finalement d'apprendre à jouer des instruments à cordes frottées, il y a des tas de gens qui font ça
ouais.
Très bien.
Ben, c'est vrai que je me suis dit aussi à un moment qu'il fallait peut-être que j'accepte que je ne pouvais pas jouer de tous les instruments, mais c'est vrai que c'est tellement pratique d'avoir sous la main tous les instruments qu'on entend dans sa tête et de pouvoir les jouer. C'est vrai que les seuls instruments où je me sens limité, que je peux pas enregistrer... Moi, c'est ça, quoi, c'est le violon et.
Alors, justement,
les cordes.
À propos d'enregistrer toi, tu as commis un album instrumental.
Oui.
Hein, j'ai oublié le titre.
Les Chroniques Terrestres.
Chroniques Terrestres, voilà.
Oui.
Volume 1.
C'est ça.
Ça veut dire qu'on en attend un deuxième.
Oui,
un
tout à fait.
Jours. Et dans cet album-là, c'est toi qui joues tous les instruments?
C'est moi qui joue tout dessus, ouais.
Voilà. Et ça, c'est un album que tu as commis, en fait, je sais pas, c'est pourquoi faire en définitive? Pourquoi faire un album instrumental?
Eh ben, pourquoi pas déjà?
D'accord.
Non, mais en fait, cet album, il est arrivé au milieu du Covid. Et je crois que je ressentais énormément de choses, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus vraiment. C'était un peu compliqué déjà parce que j'ai besoin d'être beaucoup au contact des autres pour écrire, parce que mon écriture est très basée sur les autres. Et sur la vie des gens en général, donc d'un coup de se retrouver un peu seul, et ben ça devient compliqué d'avoir des choses à raconter parce qu'on vit quand même vachement moins de choses. Et pour autant, j'étais traversé par énormément d'émotions et j'avais besoin de les mettre quelque part. Et pour le coup, la musique sortait vraiment toute seule. Cet album, ça s'est fait. Chaque morceau, ça me prenait une demi-journée à faire, faire. Et puis après, un petit peu plus en studio pour les finaliser. Mais ça a été vraiment des jets très très rapides, quoi.
D'accord. En définitive, c'est pas un gros album, il y a 7 titres, je crois.
Ouais.
Et c'est aussi probablement une manière de tenter des textures sonores, d'essayer des dispositifs particuliers. Est-ce que ça faisait partie du jeu, ça?
Ouais, bien sûr. En fait, ça a été un vrai laboratoire de recherche pour l'album, pour les Royaumes Minuscules qui arrivaient après. Et c'est hyper agréable d'un coup d'avoir un espace de liberté totale comme ça, parce qu'on n'est plus... On n'est plus dépendant de structures, de narration ou de choses comme ça. Il n'y a vraiment que la musique qui prime. Et en plus de ça, c'est très permissif quoi, dans les structures, dans ce qu'on veut faire. Et aussi dans les textures sonores. Je pouvais avoir des choses qui étaient très, très DIY, très enregistrées n'importe comment. Et puis d'autres choses en essayant de rendre grâce aux instruments, de leur rendre justice, de rendre justice au son aussi. Donc ça a été vraiment plein de manières à la fois de rechercher dans le son et aussi de rechercher des nouvelles manières d'arranger, de placer les instruments les uns avec les autres. C'est pour ça que, avant de faire le prochain album que je ferai, eh ben, je vais refaire un autre disque instrumental qui me permettra de repartir dans d'autres expérimentations.
On comprend bien donc la fonction de ces albums-là. Mmh. On va écouter tout de suite un morceau de cet album qui s'intitule Mu.
Oui.
Voilà. C'était Mu, Hein, je désannonce. C'est ému et c'était dans ce morceau-là, on entend beaucoup les cuivres que tu joues, qui sont ton premier instrument. Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus de ça. Moi j'avais envie de te poser des questions à propos des cuivres, des questions idiotes, hein, des alternatives.
Allons-y.
Si je te dis Herbal Père ou Maurice André ?
Maurice André.
Quand même. Si je te dis Dizzy Gillespie ou Chet Baker ?
Ah, c'est impossible ça. Pour le coup, pour moi je les place à deux endroits différents, mais je dirais Dizzy pour la trompette et Chet pour le chant plutôt.
Ah d'accord.
Pour les chansons plutôt.
Miles Davis ou Wynton Marsalis ?
Ça c'est dur aussi, mais alors pour moi ça c'est vraiment le yin et le yang, Marsalis et Miles Davis. Marsalis c'est un technicien de malade, c'est quelqu'un qui est capable de jouer 2 heures entières sans jamais s'arrêter aussi.
Enfin, ce qui pour un trompettiste est difficile.
Bah, ce qui est impossible, il a le souffle continu, donc il peut jouer tout le temps, il joue très très vite, il joue très très bien. Il a fait des choses même dans le classique qui étaient super intéressantes. Après Miles Davis c'est vraiment mon premier rapport, je pense que c'est le premier artiste que j'ai vraiment plus qu'apprécié, quoi, qui m'a touché aussi profondément. J'écoutais ça quand j'étais petit et ça m'a suivi et c'est encore de la musique que j'écoute énormément aujourd'hui. Donc je pense que je dirais quand même Miles Davis parce que j'ai passé beaucoup plus de temps avec lui qu'avec Wynton Marsalis.
Et pour finir, j'ai encore une alternative entre Paolo Fresu et Eric Truffaz.
Je dirais Eric Truffaz parce que j'ai beaucoup écouté ses albums aussi et je sais pas, il a expérimenté beaucoup de choses aussi. Il a à la fois des choses très qui viennent vachement du bebop et puis aussi d'autres choses qui viennent beaucoup plus de la musique un peu fusion et qui n'était pas forcément une musique qui moi me parlait. La musique avec beaucoup plus de texture électronique et tout ça. Et en fait je trouve qu'il a notamment un album qui s'appelle The Walk of the Giant Turtle, quelque chose comme ça, qui est une sorte d'expérimentation. C'est assez électronique, c'est assez beau, les trompettes sont dans des réverbes et ça se place vraiment dans quelque chose où je n'aimais pas le jazz et il a réussi à me faire aimer ça, et pour ça je dirais Eric Truffaz.
Très bien, alors déjà on a mieux compris de quel côté ta trompette penche. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi, parce que j'ai entendu à plusieurs reprises Albin Lacimone, avec qui tu as collaboré et avec qui semble-t-il tu as une relation personnelle particulière. Albin de la Simone parlait de ta trompette, mais quand je t'ai vu jouer dans Rooms, c'était pas de la trompette que tu jouais, c'était du bugle.
Oui, j'avais du bugle dans Rooms.
Voilà. Alors il faut qu'on dise aux auditeurs que tous les instruments avec un pavillon et une embouchure ne se valent pas.
Non.
Et qu'ils ont des timbres différents, ils ont des jeux différents entre les perces coniques et les perces cylindriques. Tu peux donner une petite explication sur ce sujet ?
Alors sur les perces, on rentre dans de la technique quand même très... Mais en gros, disons qu'il y a plusieurs tailles d'instruments. Le bugle, c'est une grosse trompette. Donc ça reste aux mêmes tonalités que la trompette, mais c'est plus dur d'aller dans les aigus. Par contre, ça a un son beaucoup plus rond. Finalement, c'est un son qui se rapproche vachement plus du corps français, plus que de la trompette, quoi. Donc c'est très doux, c'est très rond. Puis bon, la trompette se décline. Moi, par exemple, je joue aussi du trombone, du marching trombone. Donc, c'est du trombone à piston, qui ressemble à un très très gros bugle, hein, disons. Et puis qui, pour le coup, se place dans les tonalités du trombone. Donc après, on peut descendre comme ça dans les cuivres. On peut descendre au tuba, on peut descendre à l'euphonium, tout ça. Et puis on peut monter après au-dessus, après la trompette, à la trompette piccolo. Mais disons que la taille de l'instrument, vu que c'est un instrument qui dépend de la physique, la taille de l'instrument va aller avec une sonorité, avec une hauteur aussi, et tout ça, quoi.
Généralement, quand même, le cornet, par exemple, a un timbre plus rond, plus doux, un peu plus feutré, satiné, je dirais, qu'une trompette, non ?
Alors, le cornet à piston, c'est pour le coup, c'est plus petit qu'une trompette.
Oui.
Mais en fait, c'est foutu différemment, c'est un peu plus large. Donc, je sais pas, moi, le cornet, ça fait très longtemps que j'en ai pas joué parce que c'était l'instrument que je jouais quand j'étais petit. Parce que c'est ce qu'on met dans les mains des enfants, parce que c'est plus simple à jouer qu'une trompette. Donc, moi, j'ai commencé par le cornet. Et puis voilà, c'est plus un instrument d'étude. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui l'utilisent comme un vrai instrument après, mais moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé comme instrument d'étude.
Voilà, bon, on a fait un peu le tour de cet instrument majeur, en fait, pour toi, qui est la trompette et la famille de tous ces instruments, tous ces cuivres, dont j'ai cru comprendre que tu jouais pas mal, puisque tu joues aussi du trombone, as-tu dit. Et j'ai envie qu'on parle un petit peu du travail d'arrangeur, puisque tu parlais d'essayer des textures sonores. Il y a un certain nombre de chanteurs dans la chanson francophone actuellement qui ont des capacités d'arrangeur. C'est pas le cas de tout le monde. Albin de la Simone a arrangé pour beaucoup de gens. J'ai en tête Florent Marchais, Benjamin Biolay, Flavien Berger, des gens qui effectivement pratique l'arrangement, c'est-à-dire agence des textures orchestrales. Est-ce que ça, c'est un travail que tu fais seulement pour toi-même, ou est-ce qu'il arrive que tu proposes tes services d'arrangeur à d'autres, ou est-ce que ce serait un projet pour toi?
Alors, je l'ai déjà fait pas mal. Je l'ai fait pour pas mal d'artistes, pour des choses très différentes. Alors, j'ai beaucoup été appelé à un moment donné pour faire des arrangements de cuivre pour des gens, ou pour faire des sections, parce que c'est l'avantage aussi de pouvoir jouer de plusieurs instruments à cuivre différents. C'est que du coup, on peut, par exemple, le dernier album d'Albin, Les 100 prochaines années, j'ai joué tous les cuivres dessus. Donc il avait des idées déjà très précises, donc c'était pas vraiment de l'arrangement. Mais il y a toujours une partie de comment on va prendre ses idées et puis faire en sorte que ça ressemble à ce qu'il est dans la tête, tout en rendant ça possible avec les instruments qu'on joue, parce que chaque instrument vient avec une connaissance aussi des placements, de où est-ce qu'on peut les mettre, de comment ça se marie ensemble. Après, j'ai fait ça, j'ai travaillé pour Vincent Delerme, j'ai fait un morceau pour lui que j'ai réalisé. J'ai travaillé avec un groupe anglais qui s'appelle Morshiba, qui est un groupe des années... Qui a eu beaucoup de succès dans les années 90, et encore aujourd'hui, hein, cela dit. Et où là, pareil, j'ai fait tout un travail d'arrangement sur un titre à eux qui existait déjà pour refaire une version de ce morceau complètement différente. Et puis voilà, ça m'arrive assez souvent. Je sais plus pour qui je l'ai fait pour Yel aussi. Donc des profils qui sont super différents, et c'est ça qui m'intéresse vachement aussi, c'est que je me retrouve à faire de l'arrangement pour des artistes qui ont des univers très différents. Moi, c'est aussi différent du mien, mais entre eux aussi très différents, et ça me permet de à la fois d'amener un peu mes couleurs et ma patte sur leur musique, et moi de m'imprégner aussi de choses qui n'ont rien à voir. Et j'ai l'impression que ça me fait progresser en tant que musicien aussi.
Probablement, effectivement. Est-ce qu'on pourrait écouter un des titres d'Albin de la Simone sur lequel tu as travaillé? Donne-moi un titre que tu voudrais qu'on écoute maintenant en illustration de ce que nous venons de nous dire.
Alors, est-ce que parce que mes préférés de cet album-là, je ne sais pas si je joue dessus.
C'est propre.
Je pense qu'on peut écouter les 100 prochaines années. C'est le titre sur lequel je pense on entend le mieux les arrangements de cuivre.
Voilà.
Donc écoute celui-là, j'adore ce morceau en plus.
Ouais, il est très bon.
Bla, 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 bla. Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Je suis père et fils, et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains roulement habille. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années. mes 100 prochaines années. Et après, on voit.
Bon, on a beaucoup parlé d'instruments, on a beaucoup parlé d'arrangements, mais enfin, tu es un chanteur.
Ouais.
Et tu écris des chansons avec des textes, avec des paroles. Donc il y a un moment où il faut qu'on arrive à parler de ça aussi.
Ouais.
Et j'avais envie de t'entendre. Alors d'abord sur le matériel sonore que représente pour toi le chant. Parce qu'on a le sentiment en t'écoutant, enfin j'ai le sentiment, je ne vais pas parler pour les autres, j'ai le sentiment en t'écoutant que le texte c'est aussi un matériau sonore, ce qu'on sait en général par rapport à la chanson, et qu'en particulier par exemple tu n'hésites pas à faire des césures à l'intérieur des mots, à tronquer les phrases, à les bouleverser un peu, à pas chercher à faire une phrase cohérente qu'on entendrait d'un bout à l'autre correctement, et à scinder des choses comme pouvait faire Gainsbourg des fois. Ou des... Est-ce que ça c'est quelque chose à quoi tu prêtes attention et qui a un sens pour toi, cette manière de traiter le matériau vocal et textuel en fait?
En fait, la voix, je m'en sers comme outil rythmique, comme outil mélodique. Ça me sert à créer du rebond, à créer du groove aussi dans les chansons. Je sais que en fin de course, le chant, la voix, c'est ce qu'on va le mieux entendre dans le morceau, parce que c'est ça qui va être mis en avant, parce que le français a cette contrainte qu'on est obligé d'entendre très fort la voix pour pouvoir comprendre ce qui est dit, quoi. Mmh. Et du coup, à partir de là, c'est une contrainte, mais en même temps, c'est une contrainte intéressante pour moi, c'est que je dois faire en sorte d'avoir des rebonds précis à des moments extrêmement précis pour être sûr que ça fasse avancer le morceau dans le bon sens, disons. Du coup, quand je commence à faire une chanson, je commence toujours par avoir une mélodie et qui vient avec donc des découpages très précis, autant mélodique que rythmique, et avec des accents très précis. Il y a des endroits où il faut que ça rebondisse, il y a des endroits où il peut y avoir, il peut y avoir qu'une seule consonne, d'autres où ça peut être une double consonne. Je sais pas comment dire ça, mais tout est extrêmement précis. Et après, une fois que j'ai tout mon découpage rythmique, à partir de là, je viens mettre des paroles dessus, et ça devient juste comme résoudre une équation, parce qu'il faut que j'arrive à trouver les mots qui à la fois donnent du sens à l'histoire, qui arrivent à présenter exactement tout ce que je veux présenter, c'est-à-dire planter les décors, donner des impressions de couleurs, d'ambiance, d'atmosphère, que l'histoire soit racontée de manière extrêmement précise, qu'on sorte de là en ayant vraiment des images et en ayant compris quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans un flou total.
Compris quelque chose, ok.
Ouais.
C'est pas toujours évident, mais...
C'est ce que j'essaye en tout cas.
D'accord.
De
ouais.
faire. En tout cas, que l'histoire est une cohérence, une narration, un début et une fin, et que, mmh. et que l'histoire nous mène quelque part et qu'on ait l'impression de... Après, comprendre quelque chose... C'est-à-dire comprendre le sens de ce que je raconte. Après, il y a beaucoup de niveaux de lecture dans ce que je raconte. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je cache aussi vachement dans la musique, aussi parce que j'ai pas envie d'imposer trop non plus toujours ce que je pense. Mais en tout cas, une fois que j'ai toutes ces infos-là, ça devient comme résoudre une équation, parce qu'il faut que j'arrive à faire rentrer toutes ces contraintes-là et à tout faire rentrer dans ma ligne mélodique avec des rebonds très précis à des endroits très précis.
Alors tu dis des chansons qui racontent des histoires. Moi, je pense aussitôt aux paroles de cette chanson, L'hiver, que j'ai trouvé particulièrement réussie et qui m'a beaucoup plu. Déjà, à l'époque, j'avais noté L'hiver, j'avais surligné, c'était ma chanson préférée, en quelque sorte, dans l'album. Et là, il y a effectivement une histoire. Il y a quelque chose de très fort. On ne sait pas exactement de quoi ça parle, finalement.
Ouais, mais parce qu'il ne faut pas trop savoir de quoi ça parle.
Voilà.
Je pense qu'on sait de quoi ça parle, mais qu'on a besoin de pouvoir l'écouter sans se poser la question, parce que c'est une chanson qui parle de quelque chose de quand même d'assez dur. Et je pense que il faut rester parfois laisser un petit peu de zone d'ombre et de brouillard pour que les choses soient acceptables et qu'on puisse se projeter et aussi détourner parfois un petit peu.
Moi, j'ai pensé, en écoutant cette chanson, qu'il y avait peut-être une violence sexuelle et sexiste, enfin quelque chose derrière, quelque chose qui avait atteint une personne. C'est une interprétation que je portais, peut-être. Est-ce que...
Après, chacun y fait son interprétation. Alors moi, c'était pas la mienne, mais disons que ça parle de quelle que soit la raison, de quelqu'un qui se retrouve en dépression, ouais. Ouais, et dans l'incapacité de bouger, de sortir de chez lui.
Et là, on a quelque chose qui m'amène à te poser une question. Actuellement, on parle beaucoup justement des violences sexuelles et sexistes. J'entendais hier
Neige Sino, qui a fait son bouquin Triste Tigre, là, sur l'inceste dont elle a été victime. On parle beaucoup de cet inceste, on parle beaucoup de ce phénomène littéralement structurel du patriarcat que sont ces violences-là. Et je me suis interrogé, justement, par rapport à cette chanson, mais peut-être aussi par rapport à d'autres, au regard que tu portes sur tout ça.
Bah, je pense, le regard que je porte, c'est juste que ça me désole de voir que ça existe. Oui. Ça me désole de voir qu'on est encore obligé de l'expliquer, que ça a l'air de... Ce qui me désole le plus, je pense, c'est le fait qu'on soit pas capable de traiter ça, qu'on soit pas capable de faire en sorte que ça change et qu'on soit pas capable de prendre sérieusement ces sujets-là. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression encore très très forte que les femmes qui subissent des agressions sexuelles notamment sont pas du tout prises au sérieux par la justice. Les agresseurs sont encore extrêmement protégés. Et j'ai un avis très tranché là-dessus. Je suis en tournée avec beaucoup de femmes. Je suis ami avec beaucoup de femmes. J'ai beaucoup de femmes autour de moi qui ont vécu des incestes, qui ont vécu des agressions sexuelles, des violences sexuelles. Et en fait, pour qui c'est extrêmement terrifiant de se dire que en parler, eh ben, ça ne va rien changer. Porter plainte, ça ne va rien changer. Et que dans 99%, eh ben, il ne se passera absolument rien. Parce que ça demande énormément d'énergie d'aller se confronter à ça, d'aller dénoncer quelqu'un. Donc, à mon avis, c'est, je pense, l'avis que tout le monde devrait avoir, c'est qu'il serait temps de s'occuper un peu de ça, quoi.
Tout à fait d'accord. Alors, on va peut-être écouter L'hiver, puisque j'avais choisi cette chanson, et puis après, on parle d'autre chose.
Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux? Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé en bloc de pierre. Tu passais des heures avant entre les marronniers à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. Et ce quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant. Et c'était pas fait pour aller mieux. Toi t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. C'est vrai que la mer est froide et silencieuse, que rien ne rayonne plus sous ton ciel pluvieux. Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut. Mais c'était pas des journées joyeuses, mais c'était pas fait pour aller mieux. Toi t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne, pas même. Chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant.
moi enfin amoureuse. T'en as déjà l'air égaré. Et tu verras plus passer les heures à t'évader vent dans le dos. Cheveux lâchés, que rien ne t'atteigne, pas même les jours plus vieux.
Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Alors, non loin de l'hiver, la chanson qu'on vient d'écouter, il y a une chanson tout à fait différente, une chanson qui a l'air d'être taillée pour le réconfort, qui a l'air d'être taillée pour la consolation, c'est ce soleil que tu chantes avec November Ultra. Alors, est-ce que tu peux me parler de ce projet-là? Parce que pour moi, soleil, c'est un peu comme un haïku. Il y a peu de texte, oui. Mais ça dit juste... Ça nous envoie des rayons réconfortants. Enfin, c'était le projet, peut-être.
C'était le projet, ouais. L'idée, c'était de pas trop se poser de questions, d'écrire quelque chose de simple pour raconter quelque chose de simple, parce que je prône un peu le retour à la tendresse et à la simplicité dans les échanges, dans nos vies en général. Et c'est vrai que je crois qu'on se retrouve très très fort là-dessus avec November Ultra, cette espèce d'envie de recréer des liens de tendresse entre les gens. Et de recréer des liens tout court aussi entre les gens, et aussi de un peu retrouver un rythme normal, disons, un rythme de déplacement, un rythme d'observation normal, retrouver l'ennui, retrouver l'observation. J'ai l'impression qu'on passe comme on a passé beaucoup de temps à détourner le regard des gens sur ce qui se passe vraiment, et on montre beaucoup, par exemple, comment dire ça, disons que quand je regarde par exemple la télé, je vois toutes les causes que j'ai envie de défendre, et ben ce que j'en vois, par exemple, parlons d'écologie, et ben plutôt que de voir des gens qui montrent à quel point c'est beau la nature, et ben on va voir des forêts qui brûlent, et on va dire regardez, il y a un problème, sauf que c'est extrêmement anxiogène.
Tout à fait.
Et
ouais, mais ça fait de l'audience.
Oui, ça fait de l'audience, mais disons que moi je m'en fous de faire de l'audience. L'idée c'est que, enfin, je me suis dit à un moment donné, si on veut rallier des gens à la cause, je trouve ça extrêmement normal que des gens ne veuillent pas parler d'écologie, parce que c'est des choses qui les angoissent, de voir des forêts qui brûlent, de voir des glaciers qui s'effondrent et tout ça. Et l'idée, c'est aussi de montrer qu'il y a des choses qui sont belles, et j'ai l'impression que c'est par là qu'on donne envie aux gens de s'y intéresser, et puis aussi peut-être de les protéger, de les préserver. Donc l'observation est quelque chose qui, plus largement dans l'album, est très présente dans ce sens-là, dans le sens de prendre le temps de regarder les choses autour de soi. Et surtout d'essayer un peu de montrer aux gens, regardez, c'est quand même trop cool, il y a quand même des choses incroyablement belles autour de nous. Occupons-nous de les regarder plutôt que de regarder nos téléphones. Et puis peut-être que ça nous donnera envie de s'en occuper. Et puis peut-être que ça nous rendra heureux, quoi.
C'est marrant parce que tu dis ça et ça me ramène à quelque chose que j'avais remarqué en écoutant l'album à un moment. Alors, quand on fait les cercles critiques, donc quand on a écouté ton album un peu sérieusement, on a plusieurs albums, on a trois albums pour une heure qu'on écoute et qu'on commente. Et à un moment, je me suis dit, je sais plus quels étaient les autres albums, mais je trouvais qu'ils étaient souvent dans des tonalités mineures et qu'on était toujours dans quelque chose qui prenait aux tripes à cause de la tonalité mineure. Ouais. Et là, je me suis dit, ben tiens, dans le disque de Voyou, il y a combien de morceaux en majeur? Et j'ai fait le compte.
Ah ouais.
Et je me suis dit, il y a plus de morceaux en majeur que de morceaux en mineur. Il y en a aussi en mineur.
Oui, hein,
là-haut, c'est en mineur. Tombe la pluie, c'est en mineur. Mais il y a aussi beaucoup de morceaux en majeur. Ce qui n'est pas, finalement, les tonalités majeures sont moins souvent utilisées. Très souvent, aujourd'hui, on remarque ça, les tonalités mineures, dont on sait à quel point elles distillent quand même quelque chose de plus mélancolique, quelque chose de, j'irai pas jusqu'à parler de tristesse, mais voilà, il y a quelque chose de plus grave. Et toi, tu n'en abuses pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup de tonalités majeures, beaucoup de soleil en dehors de cette chanson-là.
Mais en fait, je pense que... Alors déjà, c'est beaucoup plus dur d'écrire une chanson en majeur qu'une chanson en mineur.
Ouais.
C'est-à-dire de réussir à faire une chanson qui est joyeuse, réconfortante, majeure, sans que ça soit cucu. C'est un défi beaucoup plus dur à relever que de faire une chanson en mineur. Je pense aussi que la musique a beaucoup été portée ces dernières années, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein. C'est très porté sur l'ego, c'est très porté sur la personnalité, mais ça l'est dans l'image. On fait quand même des éloges de l'individu, quoi, dans la musique. Et puis on écoute énormément de musique. qui sont des gens qui parlent d'eux et qui parlent d'eux extrêmement sérieusement et très premier degré. Et il y a un, disons que c'est l'éloge de l'ego, c'est l'éloge de l'individu, c'est l'image, c'est, et je pense que le mineur rassure les gens aussi parce que ça leur donne l'impression d'être des gens cool et un peu sombres et un peu stylés et tout ça. Et en fait, moi, ça, je m'en fous un petit peu, je crois. Et puis, au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on a, que ça y est, ça, on a compris. Les gens qui racontent leurs petits problèmes en ne se focusant que sur eux et sans jamais se porter autour. Et je dis ça, il y a énormément d'artistes qui ne font pas ça ou alors qu'ils le font extrêmement bien. Mais moi, disons que là où j'avais envie de me placer, c'était plus un endroit où justement, j'essayais au maximum de m'oublier et de parler d'autres choses et de parler des gens et de pas parler juste de moi auto-centré, quoi.
Alors moi, en écoutant les insectes par exemple que j'ai trouvé que c'est pareil, j'ai trouvé ça génial, moi, les insectes, cette idée de cet abandon, cette désolation que tu traites sur un mode burlesque un peu avec ces insectes qui vivent autour de soi. On va peut-être écouter la chanson d'ailleurs. J'ai pensé à Jamiroquai, je me suis dit mais il saute, il y a quelque chose d'un peu funky dans les rythmiques, ça groove, ça tourne, et en même temps il est en train de raconter un truc qui est pas drôle finalement. Il a vécu un chagrin d'amour, un abandon, et la maison se remplit d'insectes parce qu'il est dans un, il est abandonné, enfin ça pourrait être très grave, et en fait on fait quelque chose de souriant et tu t'habitues aux insectes, c'est merveilleux ça.
Ouais, bah c'est une chanson d'acceptation aussi.
Oui.
Accepter bah alors déjà je parlais d'ego juste avant, là pour le coup c'est vraiment une chanson qui est écrite qui est une des rares chansons où je parle de moi vraiment, enfin comme si c'était vraiment moi, et en même temps en décrivant un personnage dégueulasse, un peu crade, qui vit entouré de saleté et d'insectes, donc pas quelque chose de très flatteur, disons. Et je sais pas, je trouvais ça marrant en fait de faire le focus sur ces insectes qui sont en train de vivre leur meilleure vie finalement sur le dos de ma tristesse et de ma désolation et de ma rupture. Et je sais pas, en fait c'était aussi une manière de dire bon bah voilà, moi je suis là en train de vivre mon chagrin, mais il y a plein de choses super qui se passent autour si jamais on regarde, quoi. Et voilà, cette chanson elle a plein de sens. Il y a beaucoup de choses cachées dans cette chanson que je dirai jamais je pense, mais il y a plein de petits bouts de paroles qui disent encore d'autres choses mais qui vont sur d'autres terrains. Mais c'est une chanson qui a été hyper agréable à écrire parce que forcément j'étais en train de parler d'une rupture qui était quelque chose que j'avais vécu vraiment en plus, et c'était assez agréable de pouvoir me marrer de tout ça, quoi, utiliser tout ça pour en faire quelque chose de drôle, quoi. Enfin je sais pas, c'était vraiment agréable.
On va écouter la chanson Les Insectes.
Depuis déjà quelques mois je vis allongé chez moi, je diminue mes mouvements, je fais semblant dans mon lit d'aller de l'avant. J'ai laissé des bouts de moi s'amasser autour de moi, des restes de moi me nourrir, moi me salir, moi laisser mes choses moisir. Et y'a tout un tas d'insectes volatiles qui font des vrilles et des loopings dans ma cuisine. Y'a des trucs louches sur mes murs, de la vie dans mes frites trop mûres, ça grouille, ça rampe, mais je crois que je m'en moque. Quelques mois qu'elle est partie de chez moi, et sous l'état de vêtements sales, je sais que sommeille des bouts de ma vie avec elle. J'ai laissé les saisons passer et mon bordel s'amasser sur les restes de nous s'aimer, nous se laisser aller, nous se séparer. Et y'a toujours ces insectes en plein déboire qui font festin de notre histoire. Y'a plus d'espoir non. Tout sec de fleurs offertes juste avant les pleurs sert de dessert à ces insectes en colère. J'avoue, je me vois mal jouer les archéologues dans mon linge sale. J'ai la tête qui semble à peine se remettre à voir sans elle. S'il me poussait des ailes, j'irais voler comme ces insectes en pleine dérive.
Pom 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 pom.
autour de moi, me disant qu'au bout d'un moment, il serait temps de faire un peu de rangement. Tous les restes de notre histoire, cachés là dans mon dépotoir, méritent au moins de se faire trier ou se faire jeter, qu'en faisant je puisse avancer. Mais j'ai mal pour ces insectes bien tranquilles qui vivent enfin la vie paisible dans ma cuisine. Tous ces trucs louches au plafond sont la troisième génération d'insectes en place dans mon appart plein de crasse. J'avoue, je me vois mal jouer des insecticides sur ces bestioles. Mon salon, c'est une fête foraine pour ces mille pattes par centaines. Si elles me poussaient des ailes, j'irais voler comme ces insectes en pleine guerre.
Alors, on a écouté les insectes. Moi, j'ai encore une ou deux évocations à faire avec toi. Je voudrais te citer des noms et que tu me dises si ça te parle. Robert Wyatt.
Pas tant que ça, non. J'ai pas trop écouté plus que ça.
Un autre nom peut-être plus proche de toi, Dick Annegarn.
Dick Annegarn, beaucoup plus, ouais. Sacré Géranium, ça a été un album qui a été assez important quand même. Sur l'écriture, sur le côté aussi un peu burlesque. Et puis, il a quelque chose de... Techniquement, c'est très fort et à la fois, on se pose jamais trop la question, c'est quasiment du guitare-voix et c'est extrêmement bien fait. Les paroles sont super, enfin, j'adore cet album.
Le prof de guitare du conservatoire de Nantes est un fan de Dick Annegarn, dont il adore la technique de guitare.
Mais ça m'étonne pas, il est très très fort, Dick Annegarn, très très bon guitariste.
Ouais. J'ai encore un ou deux noms, je pense à Milton Nascimento.
Ah oui, bah ouais, ça j'adore. Mais... Ça fait partie d'un des gars de la MPB que j'ai beaucoup écouté, donc de la musique brésilienne, populaire brésilienne. J'ai des albums à la maison, hein. je les mets souvent sur la platine. Et...
D'accord, ça, je suis pas surpris, parce qu'effectivement, en plus, là, cette fois-ci, pour cet album-là, contrairement au précédent, tu as carrément été enregistré des choses au Brésil. Il y a une partie de l'album, les rythmiques, c'est des Brésiliens, c'est ça, des percussions.
Batterie et percussions. En fait, j'ai fait une première version de l'album où je jouais tout. Et après, je suis allé au Brésil parce que j'avais envie que cet album il sonne live. Et lors de ma première tournée au Brésil, j'avais rencontré ces deux musiciens, Mauricio et Samoka, qui sont des musiciens extraordinaires, hein, vraiment, et puis qui ont une manière de jouer qui correspond à plein de choses que j'ai écoutées et que j'ai aimées. Et c'est des gars qui ont accompagné des gens dont j'étais fan, dont je suis fan. Et il y avait quelque chose d'hyper naturel quand on s'était retrouvés à jouer ensemble, quand j'étais allé en tournée là-bas. En fait, ils avaient joué mes morceaux, on avait joué mes morceaux ensemble, et ça sonnait mieux que ça n'avait jamais sonné, parce que ça groovait mieux que ça n'avait jamais groové. Et donc pour cet album, je suis retourné là-bas, et on s'est mis tous les trois dans le studio, Samoka à la batterie, Bader aux percussions et moi à la basse, et on a refait tout le disque d'une traite en live, tous les trois comme ça. Et c'était vraiment... Ce qui était fou, c'est qu'au début, on a fait deux prises, trois prises du premier morceau. Le deuxième, on faisait deux prises. Ça coûtait cher à mon label de m'envoyer au Brésil pour faire ça quand même. Donc j'avais quand même besoin d'avoir un résultat cool quand je revienne. Et sauf qu'en fait, au bout du troisième morceau, on s'est mis à enregistrer qu'une prise de chaque truc parce qu'il n'y avait pas besoin de faire plus.
Ça sonnait.
Ça sonnait tout de suite, ça groovait. Et puis tu mets ça sur la grille, sur le logiciel, et en fait, il n'y a rien qui est calé. Il n'y a rien qui va avec le reste, c'est pas sur les grilles et tout ça. Mais on a rien pu toucher, tout était bien comme ça, quoi.
On va se quitter sur ces derniers mots à propos du Brésil, et peut-être on se quitte sur la chanson la plus brésilienne de l'album. À ton avis, c'est laquelle ?
Je crois que la plus brésilienne, dans les harmonies, dans la mélodie, je dirais que c'est Une île.
Et ben voilà. Allons-y. Merci, Voyou, de m'avoir reçu, et puis bon concert tout à l'heure à l'Escale.
Merci beaucoup. Son corps est une île qui fascine aux quatre coins du continent. Cette île paraît-il, quand elle se dessine au beau milieu de l'océan. C'est comme un nouveau monde,
En une seule seconde, on oublie nos vies d'avant. Ce qui se lance à l'assaut de son cœur sont pourtant bien vaillants. Mais élancé sans sonder ses faveurs, s'écrase bien souvent. Le soir, sur son rivage, on ramasse les restes de quelques naufrages. C'est vrai, l'espoir d'une vie meilleure ne s'embrasse pas sans un bouquet de fleurs. Un soir l'île entière aperçut au large un petit bateau approcher. Il filait, filait sans peine, embrassant les vagues, impatient de la rencontrer. Ses voiles étaient pleines pour elle de poèmes que les oiseaux rapportaient. Élancée seule à l'assaut de son cœur, l'île écouta son chant. Et amusée de toutes ses douceurs, le prit dans son courant. Le soir, sur son rivage, il s'avança seul au milieu des naufrages, emporté par l'espoir d'une vie meilleure, les bras remplis de quelques bouquets de fleurs, il se posa sur elle.
Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Alors, puisqu'il me reste un petit peu de temps, je vais vous proposer un petit compte-rendu du concert auquel j'ai assisté après cet entretien, et puis quelques friandises. Concernant le concert, il se déroulait à l'Escale. L'Escale, qui est une salle qui n'est pas la salle la plus connue de l'agglomération nantaise, mais qui a la possibilité de recevoir un public debout. Et le public debout, c'est tout ce qu'il faut pour Voyou, dans la mesure où c'est un concert où il faut danser, c'est un concert où il faut laisser les corps s'exprimer largement, et c'est ce qui s'est passé au cours de ce concert. C'était amusant de voir le public arriver et progressivement s'installer, les premiers arrivés étant tout de suite devant la scène, au plus près. On sent que c'est ceux qui ont besoin de dévorer Voyou des yeux à la distance minimale. Et puis, progressivement, la salle s'est remplie et elle était bien pleine, très pleine, quand le concert a commencé. Le concert qui a été un moment extrêmement jovial, extrêmement dynamisant, avec beaucoup de relations entre Voyou et son public, beaucoup d'allées et venues. On sentait une connivence, on sentait qu'une bonne partie des gens qui étaient là connaissaient bien les chansons. J'ai même, à un moment, en me promenant, entendu des enfants qui devaient avoir 10-11 ans et qui chantaient les chansons en même temps que Voyou. Ils connaissaient toutes les paroles par cœur. Mais il y avait aussi des personnes chenues avec des cheveux blancs. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait un public très divers, très mélangé, très intergénérationnel, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose qui compte, parce que c'est pas tous les chanteurs qui ont ce genre de public. Et puis Voyou a su, parce qu'il a une attitude très débonnaire, cette espèce de grand escogriffe dégingandé avec ses costumes très, très flous. Et il y a un côté, comment dire, un côté clown auguste presque dans sa manière d'être et en même temps touchante. Et puis il était entouré par un orchestre composé de deux femmes et deux hommes qui étaient dans la connivence avec lui, dans le sourire, dans des échanges joyeux et toujours léger, enfin, même quand on traitait de thèmes graves comme l'hiver que vous avez entendu précédemment dans cette chanson, dans cette émission, je veux dire. Je vais vous proposer de découvrir quelque chose, alors que je n'ai pas enregistré au moment du concert, mais que j'ai chopé sur son Instagram, parce qu'il y a des bribes comme ça sur l'Instagram, et qui correspond quelque part à un moment du concert, parce que pendant le concert, il est venu à la fin, comme un rappel pour calmer l'enthousiasme d'un public qui en redemandait, chanter avec l'orchestre tout entier la chanson Soleil, Soleil, chanson qu'il interprète sur le disque en compagnie de November Ultra. Là, il n'y avait pas November Ultra, mais il y avait Laura Etchegoyen qui l'a remplacée magistralement, qui est une très belle chanteuse que je vous conseille de découvrir aussi. Et il y avait aussi un invité nantais, puisque Voyou a été longtemps nantais, et il avait invité à se joindre à eux Laine Parotte. Et donc ça a été un petit moment comme ça de douceur. Je vais vous proposer deux moments de ce type-là que j'ai donc glané sur l'Instagram de Voyou. Le premier, c'est une reprise enregistrée live comme ça, dans l'atmosphère, au bord d'un lac, sur un ponton, de la chanson Les Insectes, que vous avez entendu dans la version du disque. Alors, c'est pas la chanson entière, c'est un extrait de la chanson, et on est vraiment dans le live, puisqu'on entend des enfants qui doivent jouer à proximité de l'endroit où a lieu cette prise. Et puis le deuxième petit extrait, c'est aussi un extrait court de la chanson « L'hiver » justement. Cette chanson qui est, semble-t-il, une chanson importante dans cet album, à mon goût, mais je crois que je ne suis pas le seul. Donc voilà deux extraits de chansons interprétées, juste les chœurs, un a cappella avec tout de même une guitare. Pas tout à fait a cappella.
Insectes ici, sur ces bestioles, mon salon c'est une fête foraine, pour ces mille pattes par centaines, s'ils me poussaient des ailes, j'irais voler, comme ces insectes en pleine dérive, qui mènent enfin la vie tranquille. Pam 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 para pam 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 para et lance seul à l'assaut de son cœur, il écoute à son chant et amusé de toutes ses douceurs. Le prier dans son courant. Oh.
Voilà, ces deux friandises que j'avais envie de vous proposer, qui sont savoureuses, je trouve, et qui donnent bien aussi la mesure des qualités vocales de cet ensemble. Tout le monde chantait au cours du concert, et ça, c'est vraiment chouette. Un dernier extrait sonore, c'est la chanson qu'évoque Voyou au cours de l'interview, de cet arrangement de Morcheeba, une chanson qui s'intitule The Moon, et que j'ai retrouvée. Donc, The Moon de Morcheeba, dans le remix et l'arrangement de Voyou.
The darkest road I've ever seen. The hunting ghosts that all set us free. I'm getting tired of all the noise. I found a way to run away from it all. Chasing
Cette émission se termine avec ce titre réorchestré par Voyou pour Morcheeba, The Moon. Là, on se retrouvera très bientôt parce que j'ai l'intention de vous proposer de nous retrouver à nouveau, comme la saison passée chez mon oncle, au 12 rue d'Alger. C'est un petit bar très sympa et on aura comme invité pour cette soirée le duo à double souffle et courant d'air. C'est, je vous en dis pas plus, du chant et des instruments. Il y a une couleur jazz dans l'histoire. Et on ne se retrouve pas par contre samedi prochain, parce que samedi prochain il y a un live continu de midi poésie. Et donc voilà, sur Jet FM il n'y aura pas l'émission, mais on se retrouve le samedi d'après avec justement l'enregistrement de cette soirée chez mon oncle. Allez, bon week-end.
Pour toi, ma langue est fait tout ça. Pour